Chapitre 101. Quand Rex et son groupe arrivent plus haut sur la montagne, ils aperçoivent distinctement la verdure en bas et la forêt qui devient de plus en plus clairsemée dans la montée jusqu'à disparaître totalement. La vallée court telle une fente humide entre Rakaslaku et Lollipgwokil. Toute la dépression depuis le village de Riksgrensen, sur la frontière avec la Norvège, ressemble au fond d'une barque immense, dont l'avant pointe vers le lac de Tournetresk. Samy lève ses jumelles, en retire les minces bouchons et balaye le paysage. Lawrence tient la carte et mène ses coéquipiers dans le vallon et la zone 2. L'enclos de chasse ne comprend pas la totalité de la vallée, mais seulement les pentes douces à l'est qui grimpent à la limite des arbres jusqu'aux landes subalpines et à la gorge escarpée. Soudain, tout se tait comme dans une forêt. Les seuls bruits sont ceux de leur équipement, de leurs pas sur le sol et du vent qui passe dans les feuillages. Le sentier boueux est parsemé d'empreintes de bottes laissées par d'autres chasseurs. De petits buissons d'airelles frottent contre les jambes de leurs pantalons. « Tu te sens comment ?» demande Rex à Samy qui hausse les épaules en guise de réponse. Une lumière aussi claire que la porcelaine jaillit d'entre les troncs particulièrement blancs des bouleaux pubescents. La vallée ressemble à une immense salle d'apparat avec des colonnes et un toit de tissu ondoyant. « Est-ce que tu sais combien il y a de neige ici en hiver ?»« Non, » répond Samy à voix basse. « 2,50 mètres. Regarde les arbres. Tous les troncs sont beaucoup plus blancs jusqu'à 2,50 mètres de haut, justement. » En l'absence de réaction de la part de Samy, il ajoute sur un ton exagérément pédagogique « Eh bien, vois-tu, c'est parce que les lichens noirs qui poussent sur l'écorce ne supportent pas de vivre sous la couverture neigeuse. »« S'il vous plaît, parlez moins fort !» demande Lawrence en se tournant vers eux. « Pardon !» dit Rex avec un sourire. « Moi, je voudrais chasser, c'est pour ça que je suis venu. » Ils poursuivent à travers les buissons verts des camarines et arrivent dans une clairière lumineuse. « Je sais à peine comment fonctionne un fusil de chasse, » confie Rex à Samy. « J'ai eu ma licence à 30 ans. Il me semble qu'il faut reculer la culasse d'une façon ou d'une autre quand on veut introduire de nouvelles cartouches. » Lawrence s'arrête et lève les mains. « On va se séparer, » dit-il en montrant la carte. « Je vais descendre vers la vallée et vous allez continuer sur le sentier. Ou alors, vous montrez de ce côté-là. »« D'accord, » répond Rex, et il scrute le sentier qui grimpe le long du versant. « Vous ne pouvez tirer que dans cette direction-là, et moi dans celle-ci, » souligne Lawrence. « Évidemment. » Lawrence leur adresse un petit hochement de tête, quitte le sentier et commence à descendre entre les arbres. « J'ai l'impression d'être parachuté dans une cage remplie de singes grognons, » marmonne Rex. Il longe encore un peu le sentier avant de commencer à monter la pente en diagonale. Au bout de 500 mètres, il s'arrête près d'un gros bloc erratique. Le rocher est comme un immeuble de schiste massif qui s'est retrouvé ici lors de la fonte de l'Indlandsis à la dernière période glaciaire. Adossé au roc, ils sortent leurs gourdes et boivent. Sur la terre sèche, entre quelques cailloux ronds, ils voient une canette de bière aplatie en une sorte de palais. Rex met ses lunettes, déplie la carte et l'étudie un instant avant d'être en mesure de s'orienter. « On est ici, » dit-il en posant son doigt à un endroit précis. « Ok, » répond Samy sans regarder. Rex sort ses jumelles pour essayer de comprendre les délimitations de leur zone. Soudain, il aperçoit Lawrence en contrebas. Il règle la netteté et l'observe à travers les lentilles. Le visage barbu de son coéquipier est attentif, ses yeux plissés. Il se faufile à travers les fourrés du vallon, lève son fusil, reste absolument immobile et regarde dans la lunette de visée. Puis il baisse l'arme sans avoir tiré et poursuit en direction des clôtures donnant sur la ligne de chemin de fer. Rex le suit avec les jumelles jusqu'à ce qu'il disparaisse entre les troncs, le corps baissé. « On va monter plus haut, » dit-il. Il grimpe la pente de biais. Le sol est sec et les bouleaux rabougris se font plus rares. « Tu m'aideras à préparer les hamburgers tout à l'heure ?» demande Rex. L'air boudeur, Sammy continue de regarder droit devant lui sans répondre. Ils s'arrêtent lorsqu'ils aperçoivent trois rennes au loin. Les animaux sont visibles entre un bosquet de petits arbres et quelques gros rochers. Ils s'en approchent tout doucement et, face au vent, contournent un bloc de pierre presque noir. Rex s'accroupit, lève le fusil et observe le mâle dans la lunette. Le renne lève sa tête couronnée de bois énormes, scrute la toundra, hume l'air et bouge les oreilles. Il reste absolument immobile quelques secondes avant de se remettre à brouter l'herbe en déambulant tranquillement. Soudain, Rex trouve une ligne de tir parfaite. C'est un renne magnifique, un gros mâle au pelage couleur bronze avec une touffe de poils blancs au niveau de la poitrine. Le réticule tremble pile devant son cœur, mais Rex n'a aucune intention de poser son doigt sur la détente. « J'espère que tu trouveras un trou dans la clôture, » chuchote-t-il, et il voit le renne lever la tête de nouveau. Inquiet, l'animal remue les oreilles. Un petit bruit sec retentit lorsque Sammy marche sur une branche derrière Rex. Le renne réagit immédiatement et s'enfuit vers la lisière de forêt plus bas. Rex baisse son arme et croise le regard mutin de Sammy, mais au lieu de s'énerver, il sourit. « J'avais pas l'intention de tirer, tu sais, » précise-t-il. Sammy hausse les épaules et il continue de monter la pente tapissée d'herbes des champs. Des crottes fumantes de rennes sont éparpillées entre des myosotis et de petites plantes rampantes à fleurs blanches. Le ciel s'est assombri au-dessus de l'Olip Guokil et le vent est nettement plus froid qu'avant. « Il va y avoir un orage, » dit Rex. Au bout d'un moment, le terrain devient plus plat, une sorte de lande qui s'étend jusqu'aux parois sombres et abruptes des montagnes. « Est-ce que tu peux porter mon fusil un instant pour... »« Je préfère pas, » dit Sammy buté. « Je vois pas pourquoi tu m'en veux. Tu me trouves chiant, hein, un peu trop pétasse à ton goût. » Rex ne répond pas. Il se met à suivre un sentier tracé par les rennes à travers des broussailles et des buissons touffus. Il songe à son alcoolisme et à tout ce qu'il a détruit. Il est de plus en plus persuadé qu'il ne regagnera jamais la confiance de Sammy. Il pourra peut-être l'inviter au restaurant de temps en temps, histoire de savoir comment il va et de lui demander s'il a besoin d'aide. Le vent froid a forci. Des feuilles mortes se détachent des buissons et s'envolent. De la poussière tourbillonne au-dessus du sol. « On mettra des steaks hachés de 300 grammes dans les burgers, grillés au charbon de bois, » dit-il. On enlèvera les bords du pain au levain, on y posera quelques tranches de fromage de Westerhave, du ketchup Stokes, de la moutarde de Dijon, plein de feuilles tendres de roquette, deux tranches de bacon, des cornichons et de la vinaigrette servie à part. Quand il dépasse le gros rocher en saillie, Rex sent les premières gouttes de pluie. Les rafales font vibrer l'herbe comme si des animaux invisibles y couraient. Puis on fera frire de minces bâtonnets de pommes de terre, rien que dans l'huile d'olive, poursuit-il, avec du poivre noir, du sel en pétales. Rex se tait en apercevant l'écume blanche d'un ruisseau descendre le flanc de la montagne plus loin. Il ne se souvient pas de l'avoir vu sur la carte et se retourne pour en parler à Sammy. Mais son fils n'est plus là. « Sammy ? » appelle-t-il. Il revient sur ses pas, contourne le rocher et voit le sentier vide qui court dans la pente. Les arbres bas et les buissons sont secoués par le vent. « Sammy, Sammy !» Il marche plus vite et scrute les environs. Une violente averse s'abat sur le côté sud du Lollip Guokil, une pluie qui ressemble à un rideau de fil de fer. Le vent forcit encore. L'orage sera bientôt sur eux, et Rex presse le pas. Plus haut, de petits cailloux se détachent et roulent vers lui. « Sammy ?» Rex le cherche du regard sur tout le versant de la montagne, quitte le sentier et se met à grimper la pente raide. Il avance vite, s'essouffle et sent l'acide lactique s'accumuler dans ses cuisses. Il transpire et s'essuie le visage, longe le lit à sec d'un petit ruisseau et dérape sur une pierre. Le fond du cours d'eau est obstrué par des broussailles. Et Rex dévie sur le côté quand il a l'impression de voir quelqu'un disparaître derrière un bloc rocheux plus haut. Il passe par une trouée dans la formation végétale, incline la nuque pour se protéger le visage, mais s'égratigne quand même la joue. Le fusil en bandoulière se prend dans les branches emmêlées et il l'abandonne sur place. L'arme se balance dans les buissons derrière lui quand il s'en extirpe. Il tombe à plat ventre, se rattrape de la main sur le sol et lève les yeux. Au loin, entre deux gros blocs de pierre situés plus haut, il aperçoit James qui tout à coup tourne son fusil vers lui et le vise. Rex se relève et redresse le dos. Il plisse les yeux pour essayer de voir ce que fait James, mais la distance est trop importante. Un reflet de la lunette de visée scintille et Rex agite la main pour se signaler. La flamme jaillit jaune, suivie de la détonation. Rex titube. L'écho résonne contre le flanc de la montagne. Les buissons derrière lui crépitent. Il entend le craquement de branches qui se cassent, puis un choc sourd. Là-haut, James court, baissé. Il met un genou à terre et vise de nouveau. Rex se retourne. Le grand renne essaie de se relever, le sang coulant à flot de sa poitrine. Sans force, il tombe sur le côté et s'écroule parmi les gros buissons. Il donne quelques coups avec les pattes et ses bois se coincent dans les branches les plus épaisses. Sa nuque se tord à un angle étrange. Le renne s'ébroue en beuglant, tend le cou et lutte pour se remettre debout. Une nouvelle détonation éclate. La grosse tête est projetée en arrière et le corps tremblant s'affaisse. James dévale la pente en direction de Rex et du renne, les cailloux roulant autour de ses pieds. « Qu'est-ce que tu fous, bordel de merde ?» hurle Rex. « Tu as complètement perdu la tête !» Il entend l'indignation dans sa propre voix, mais il est incapable de se maîtriser. James s'arrête en haletant. Ses yeux sont écarquillés, la sueur perle sur sa lèvre supérieure. « Tu es devenu complètement fou ?» répète Rex. « J'ai tué un renne, » dit James entre ses dents. « Mon fils aurait pu être à cet endroit !» hurle Rex avec un grand mouvement de la main. « Vous vous trouvez sur ma zone, » répond James, imperturbable. Une bourrasque vient les balayer, puis la lourde pluie se met à tomber. La forêt de bouleaux bruit et les gouttes crépitent sur tout le versant de la montagne. Au moment où la pluie s'abat sur eux, une détonation sèche retentit dans le ciel. Les deux hommes se retournent. Haut dans les airs, une fusée de détresse rouge brille à travers les trombes d'eau. Elle tombe lentement en dérivant, puis elle disparaît comme si elle s'enfonçait dans une mer trouble.